Eh bien, vous êtes sur Canal Sud 92,2 MHz, il est 10h36, vous êtes en direct à la pendule de Canal Sud, comme tous les mardis en 15, c'est l'heure de la revue de presse. Une revue de presse qui a lieu presque tous les mardis, puisque nous n'avons pas pu réaliser cette émission le mardi 14 février dernier. Et aujourd'hui, une émission réalisée du petit studio de secours, pendant qu'une autre émission est fabriqué en différé depuis le grand studio. Pour présenter mes excuses pour tous les problèmes techniques qui vont arriver, chers écouteurs, chères écoutrices fidèles, vous savez que c'est déjà la pagaille dans le grand studio, alors imaginez. Ici, donc, je me démène avec les fils et sans casque. Donc, je vais baisser un peu ce retour. On essaiera de garder la bonne humeur. Et trêve de plaisanterie, aujourd'hui on va parler de Russie, de Djibouti, de la Côte d'Ivoire, du Sahel, des Philippines, de la Turquie et du Trumpland, comprenez les États-Unis. Russie pour commencer avec une commémoration à problème, ou pas de commémoration du tout, en tout cas c'est le point d'interrogation. En effet, le 23 février 1917, la Russie basculait dans le XXe siècle, la révolution mettait fin à la monarchie séculaire et ouvrait la voie au régime soviétique qui a fait la grandeur et l'horreur de l'URSS pendant 70 ans. Donc le mot « horreur » vient de Véronika Durman dans Libération de mercredi dernier. Rencontre avec l'historien Nicolas Vert, et donc c'est une interview. Comment le régime russe actuel perçoit-il l'année 1917 ? Question de Véronika Durman. Réponse de l'historien Nicolas Vert au sujet de 1917, c'est compliqué. Le Kremlin est mal à l'aise. La révolution est un chapitre qui dérange énormément l'idéologie qui est en train de se mettre en place. C'est un épisode perturbateur de contestation de l'État par la société, de désintégration et d'affaiblissement de celui-ci. Alors que l'idéologie officielle repose aujourd'hui sur la fusion, non pas entre le parti et le peuple comme à l'époque soviétique, mais entre l'État et le peuple. De ce point de vue, il n'y a qu'un seul moment fondateur de grandeur, c'est la Grande Guerre patriotique, comprenez la Deuxième Guerre mondiale. On célèbre aussi l'industrialisation et le renforcement de l'URSS par Staline dans les années 1930. D'où le flou, le trouble pour les commémorations de 1917. Alors que la commémoration d'octobre 1917 a été la principale fête soviétique durant des décennies, ce n'est plus une fête nationale, ni un jour férié. Elle a été remplacée au milieu des années 1990 par une vague journée de l'Union nationale. Question, le régime actuel ne parvient pas à se décider sur ce qu'il faudrait célébrer. Réponse, on ne va pas célébrer Lénine qui incarne le matérialisme athée. Le rapport des bolcheviks vis-à-vis de l'Église, redevenue puissante, est très problématique. Staline n'était pas plus tendre, mais on ne met l'accent que sur sa politique religieuse d'après 1941, à partir de la grande réconciliation patriotique de l'été 1941, après l'agression nazie de l'URSS. Certains mythes de 1917 sont-ils encore vivants ? Réponse de l'historien, pour ceux qui sont arrivés au pouvoir en Russie juste après l'effondrement de l'URSS, l'explication était toute trouvée. Ils ont adopté la théorie libérale du complot, ourdie par des éléments profondément étrangers au peuple russe, soit les bolcheviks, une bande de criminels vilipendiés par l'Allemagne, qui n'avait aucune légitimité populaire, point de suspension, ce qui permettait de condamner le communisme. Mais pour Poutine, c'est moins évident. Il ne peut pas vraiment insister sur l'image d'un Lénine à la solde des Allemands et dans le même temps glorifier Staline, héritier idéologique du précédent. Le pouvoir russe met donc un peu la pédale douce sur Lénine et c'est Staline qui incarne aujourd'hui la grandeur nationale. Les communistes d'aujourd'hui, Zhuganov en tête, c'est le chef du parti communiste russe actuellement, célèbrent donc un bolchevisme national, c'est-à-dire là encore la ligne de Staline qui apprenait le socialisme dans un seul pays, contrairement à Lénine, partisan d'une révolution mondiale. Lénine est un personnage inconfortable par rapport à un Staline nationaliste qui correspond plus au patriotisme actuel. Certes, Lénine est toujours exposé au mausolée sur la place Rouge, mais on n'en parle plus. Le pouvoir ne tranche pas, ne propose pas un discours construit. Parce qu'en réalité, il ne sait pas quoi faire de 1917. Il y aura des colloques universitaires, mais aucune réelle célébration du centenaire. On insiste davantage sur l'avant et l'après, sur la continuité de l'histoire multiséculaire russe. Le tricentenaire de la dynastie des Romanov en 2013 était plus évident à célébrer, car il permettait de rappeler la grandeur de la Russie quand elle était un empire, en s'adonnant au kitsch passéiste et nostalgique des bals et des réunions de cadets. Question, revenons sur les événements. Dans quel état est le pays en février 1917 ? Dans une crise politique profonde qui a commencé au début du siècle. La Première Guerre mondiale a des effets particulièrement dévastateurs sur la Russie, où la fracture entre l'autocratie et la société est déjà consommée. L'Empire russe a une étape de modernisation économique inachevée, est fragile, notamment face à un blocus de toutes les importations venant d'Europe occidentale. Mais personne ne s'attendait à la révolution, ni les révolutionnaires, ni vraiment les milieux libéraux rassemblés autour du bloc progressiste à la Douma. L'expérience libérale ayant déjà échoué une première fois en 1905, ils hésitaient à se lancer dans une autre tentative. Question, l'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est une manifestation ouvrière. En effet, elle commence le jour des femmes, le 8 mars, c'est-à-dire le 23 février en Russie. C'est un mouvement spontané d'ouvrières confrontées à des difficultés quotidiennes de moins en moins supportables. Un énorme problème d'approvisionnement, y compris en pain. La reconversion de l'économie russe vers l'effort de guerre a vraiment cassé le marché intérieur, la production de biens de consommation courante. Il y a, en 1917, un énorme problème de ravitaillement des villes. Les grandes usines à Petrograd, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en manque de combustible et de matières premières, mettent les ouvriers au chômage. Ces manifestations ouvrières, largement spontanées, ne vont pas être décisives, puisqu'au bout de 3 jours, le mouvement s'épuise, le régime sort l'arme de la répression, et ce n'est que la mutinerie de quelques régiments de la garnison de Petrograd qui va faire basculer cette émeute de la faim en révolution. Question, le rôle des soldats est donc absolument fondamental. Réponse de l'historien, oui, il est décisif. C'est une immense masse de paysans soldats d'une dizaine de millions d'hommes, à côté de laquelle les prolétaires pèsent très peu, puisqu'ils sont à peine 2 millions. C'est déjà quand même pas mal. Il ne s'agit pas d'une armée citoyenne. La distance est énorme entre le sans-grade et l'officier. L'armée concentre toutes les contradictions sociales. La politique qui va tout bouleverser est véritablement introduite dans l'armée en 1917 par la création de comités de soldats élus à tous les niveaux. Mais comment commander une armée où tout le monde est en meeting permanent et où l'on discute à tous les ordres ? Question de Véronica Dorman. Quels ont été les principaux acteurs de la révolution alors ? Il y en a eu 4, répond l'historien. D'abord l'armée et les paysans qui sont très liés. Une sorte de grande jacquerie commence à la fin de l'été 1917. Ce mouvement est concomitant avec le retour désordonné des soldats qui se sont auto-démobilisés. La troisième dimension révolutionnaire, c'est celle des usines dans les grands pôles industriels, Petrograd, Moscou, Bakou et quelques villes du Donbass. Enfin, quatrième dimension, la révolution des nationalités. Février 1917 libère toutes les énergies et les mouvements centrifuges de l'immense empire. La convergence de ces 4 grands mouvements agit comme une force dissolvante sur un État très fragile. D'autant plus que les politiques du gouvernement provisoire en place dès mars 1917 n'ont pas été de renforcer l'État, mais au contraire de le démocratiser de manière extrêmement brutale. La verticale du pouvoir a été brisée. Les bolcheviks n'ont plus eu qu'à cueillir un pouvoir largement dissous tout au cours de l'année 1917. Bon, voilà, c'était l'histoire vue par l'historien Nicolas Werth. On aura l'occasion de revenir sur la grande révolution de 1917. Et en attendant, donc, on va faire une petite pause. On va tenter de voir si les pauses marchent. Donc voilà, hop, j'appuie sur le bon bouton, c'est là. Ouais. Ah ouais, c'est ça? On n'a pas l'air d'entendre grand-chose, mais ouais, c'est une cassette. Et on n'entend pas la cassette. Ah, alors, il faudrait peut-être que je pousse le CD2. Non, il y est, on entend, on n'entend pas. Bon. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Hein. Bref. PAD en haut, PAD en bas. Ouais. Bon, on va voir ça. Comme j'ai pas de casque, donc j'ai pas de retour. Voilà. Bref, on va passer au sujet suivant. Alors, on baisse ça. On le baisse. On fait pause. Pause. Voilà, je ne sais pas où il est. Là, c'est là, je crois. Ouais. Et on passe à Djibouti. Donc, si vous n'entendez pas, vous ne pourrez pas téléphoner au 61 53 36 95. Donc, je continue. Donc, Djibouti, la visite du président djiboutien Omar Gullet à Paris cette semaine soulève l'indignation de l'opposition. Lisons cette interview réalisée par Stéphane Aubouard dans L'Humanité de hier lundi, qui interrogeait Mohamed Kadhami, dirigeant du Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. Question. Quel sens donnez-vous à cette visite du président djiboutien en France, la première sous le quinquennat Hollande ? Réponse de Mohamed Kadhami. Cela faisait près de 6 ans qu'Ismaël Omar Guelleh n'avait pas décroché de rendez-vous à Paris. Pour lui, cela reste un bon coup de pub. Mais cela montre aussi le début d'une certaine gêne de la France vis-à-vis d'un pays partenaire historique où les droits de l'homme sont quotidiennement bafoués. Sarkozy l'avait reçu à l'Élysée dès sa première année de mandat sous l'impulsion du MEDEF. Il reviendra en 2010, 2011 et 2013 lors d'un sommet africain. Mercredi, c'est demain, une rencontre avec Pierre Gattaz serait aussi prévue et j'ai entendu dire que des sénateurs de droite pourraient aussi le rencontrer. À Djibouti, outre le pouvoir militaire français, ce sont les entrepreneurs et les patrons installés depuis longtemps qui continuent de plaider la cause de Guelleh en France en échange de quelques avantages. Bien entendu, il s'agit des entrepreneurs et patrons français qui sont installés à Djibouti. Question de Stéphane Aubouard, des organisations djiboutiennes ont manifesté samedi à Paris. Un autre rassemblement est prévu demain, donc c'est aujourd'hui, mardi, s'y accorde la préfecture, on ne sait pas encore. Quel message souhaitez-vous faire passer au gouvernement ? Réponse de Mohamed Kadhami, nous demandons à la France de ne pas céder à Ismaël Omar Guelleh. En 2013, après les élections législatives qui avaient vu l'opposition gagner puis se faire voler la victoire, l'ambassadeur de France avait pointé du doigt les nombreuses irrégularités. Guelleh avait demandé sa tête et l'avait obtenue. Nous attendons plutôt de la France qu'elle dénonce le recours à la torture systématique dans notre pays, devenu un mode de gestion politique contre l'opposition. Nous sommes un petit pays de 800 000 habitants. Aussi, la terreur d'État n'épargne-t-elle personne ? En décembre 2016, 2 chameliers ont été abattus par l'armée non loin de Moussa Ali à la frontière éthiopienne. 2 bergers ont été torturés à mort à Tadjoura la même année. Nos amis IES du Comité des femmes djiboutiennes ont manifesté samedi pour dénoncer le viol couramment usité par le pouvoir. Nous demandons donc au gouvernement français d'aider à la libération de Mohamed Ahmed Eidou depuis son arrestation en 2010 pour appartenance supposée au Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, le FRUD. On lui inflige un traitement inhumain depuis plus de 6 ans, entre torture, défaut de soins, isolement et privation de tous les droits élémentaires. Nous demandons enfin la libération de 12 autres prisonniers détenus arbitrairement. Question, quelle marge de manœuvre politique existe-t-il pour contrer l'actuel président ? Réponse, les bases sociales sur lesquelles il s'appuyait ont fini par exploser après le massacre du 21 décembre 2015 par les forces du régime à Bouldouko, c'est un faubourg de la capitale, lors d'une cérémonie traditionnelle. On parle de 70 morts et 150 blessés. Par ailleurs, la récente promotion du gendre de Guelleh, ministre de la Santé, est source de tensions au cœur même du pouvoir. De son côté, la coalition antigouvernementale s'est désunie lors de la présidentielle de 2016, faute d'avoir pu désigner un candidat unique. Aujourd'hui, cette coalition bat de l'aile, mais la colère de la population augmente. Il faut l'entendre et s'organiser pour 2018. La situation économique est désastreuse. Le clan Guelleh mange tout, détient le business aussi bien que les postes de la fonction publique. 80% des Djiboutiens vivent sous le seuil de pauvreté. 1 sur 2 est au chômage, ce qui pousse les Djiboutiens à partir. En quelques années, plus de 10 000 Djiboutiens ont fui en Éthiopie ou au Yémen. L'an dernier, une centaine d'entre eux sont morts en voulant traverser la Méditerranée. Ce gouvernement n'a pas de limites et use de tous les stratagèmes pour étouffer son peuple. Dans la région du Nord, désignée comme fief d'Ufrud, le gouvernement procède désormais au blocage ou au rationnement des denrées alimentaires. Qui dit mieux ?
Alors, donc,
la pause habituelle. Et après Djibouti, nous restons en Afrique, mais de l'autre côté du continent, en Côte d'Ivoire, avec un reportage très passionnant paru dans Libération de hier lundi. Cela fait longtemps que Drissa ne sursaute plus lorsque passent à toute allure les convois ministériels. Le jeune homme semble ne plus entendre le vacarme quotidien des sirènes de leurs escortes. Depuis son petit kiosque de bois posé sur le trottoir de la commerçante rue des Jardins, dans le quartier chic de Cocody à Abidjan, il vend journaux, cigarettes et quelques bonbons depuis 9 ans. Il était déjà là en 2011 et se souvient parfaitement de ses longues journées de printemps où, en pleine crise post-électorale, les tirs dans les rues alentour l'avaient contraint à ne pas travailler. Depuis, il a vu le calme revenir, les villas huppées revêtir une couche de peinture fraîche et de nouveaux immeubles sortir de terre. De grands travaux ont été lancés dans le pays, un immense pont et des autoroutes ont été construits. En seulement quelques années, fort d'un des plus forts taux de croissance au monde, 8,5% en moyenne depuis 2012, le pays est redevenu incontournable pour les investisseurs. Après une décennie de crise achevée en une guerre qui a fait 3000 morts, la résurrection ivoirienne ne cesse d'être vantée et racontée à Anne-Sylvestre Trainey, donc dans Libération de hier. Mais ces dernières semaines, le tableau idyllique est noirci. À nouveau, Drissa a vu les rideaux de fer de la rue des Jardins baisser. L'agitation habituelle s'est tue. Pendant quelques heures, le 6 janvier, la peur s'est réinstallée. Cela a fait remonter de mauvais souvenirs, raconte Drissa. À 350 km plus au nord, à Bouaké, les militaires sont alors en train de se mutiner. Ils réclament le versement de primes et des augmentations de salaire. Rapidement, ils sont suivis par les soldats de plusieurs autres villes, dont Abidjan, la capitale économique. Tous sont d'anciens membres de la rébellion qui a soutenu le président élu, c'est-à-dire Alassane Ouattara, contre le président sortant, Laurent Gbagbo, lors de la crise post-électorale, et ils expliquent se sentir oubliés par celui qu'ils ont aidé. Pour calmer la colère, le président Ouattara se plie aux revendications et promet à 8500 militaires une prime de 12 millions de francs CFA, c'est-à-dire 18 300 euros chacun. Les soldats baissent les armes, mais loin d'apaiser le pays, l'épisode a ouvert la boîte de Pandore et révélé un profond malaise social. 10 jours plus tard, à Yamoussoukro, dans le centre, c'est un peu plus au sud de la Côte d'Ivoire, d'autres militaires se soulèvent. Une révolte qui fait 4 morts. Ce sera ensuite au tour des gendarmes et des pompiers. Dans les campagnes, les producteurs de noix de cajou, dont le pays est désormais le premier exportateur mondial, exigent une revalorisation du prix d'achat de leurs fruits. À Abidjan, ce sont les fonctionnaires qui sont décidés à se faire entendre. Ils viennent de conduire une grève particulièrement longue, paralysant toute la fonction publique. Le mouvement n'a été suspendu que dans l'attente des résultats des négociations. On a été révolté de la célérité avec laquelle le gouvernement a cédé aux mutins. Ça fait des années qu'on est mécontent, mais cette fois-ci, on a décidé de ne pas se laisser faire, explique Théodore Nania Zadi, le président de l'intersyndicale. Professeur de lettres modernes en fin de carrière, il gagne 450 000 francs CFA, c'est-à-dire 686 euros par mois, un bon salaire dans le pays où le revenu minimum est de 91 euros. Même nous, on ne s'en sort plus, les prix des logements ont doublé, s'écrie-t-il. Ceux qui sont en haut s'enrichissent, mais nous, en bas, on s'appauvrit. Ce que vivent les Ivoiriens, c'est une bombe sociale, prévient-il. Le miracle économique du pays reste un mirage pour beaucoup d'Ivoiriens. Malgré la croissance, le taux de pauvreté n'a que légèrement reculé. De 51% en 2011, il était encore de 46% en 2015. On assiste à une crise du modèle économique d'Hassan Ouattara et de sa politique néolibérale, analyse le politologue ivoirien Rodrigue Koné. Selon lui, cette grogne sociale n'a rien d'étonnant. Une première alerte avait retenti en juillet. À l'annonce de la hausse du prix de l'électricité, plusieurs villes s'étaient enflammées. À Bouaké et à Yamoussoukro déjà, des manifestations avaient dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre et en pillage. Le problème, c'est que la corruption est partout et qu'elle rend impossible la redistribution de la richesse, estime le politologue. Du policier qui accepte un billet et oublie l'amende, au professeur qui se fait payer ses bonnes notes, le système est omniprésent. Selon plusieurs entrepreneurs, la corruption n'a cessé d'augmenter ces dernières années. De nombreux Ivoiriens ont l'impression que ce sont toujours les mêmes, issus d'une petite caste qui profite de la richesse, poursuit Rodrigue Koné. Beaucoup ont le sentiment de voir renaître le système de Oufet Boigny, c'est-à-dire le premier président ivoirien dans lequel l'État est aux mains de quelques grandes familles. C'est un retour en arrière. L'instauration d'une vice-présidence et d'un Sénat par la nouvelle Constitution, votée à l'automne, n'a fait que renforcer le sentiment d'une hausse des privilèges. Avec son petit kiosque de la rue des Jardins, Drissa gagne 70 000 francs CFA, c'est-à-dire 106 euros les bons mois. Mais il ne se plaint pas. Contrairement à certains de ses voisins, il a échappé au déguerpissement. Déguerpissement, c'est le nom qu'ici on donne à la politique menée par le gouvernement dans certains quartiers pauvres jugés dangereux, exposés aux inondations ou aux glissements de terrain. Certaines maisons sont alors détruites à coups de bulldozers et leurs habitants mis à la porte, souvent sans qu'aucune solution d'hébergement ne leur soit proposée. C'est ainsi qu'un matin, Doudou a vu sa précaire maisonnette réduite en miettes. Avec son mari et ses quatre enfants, elle a quitté la chic rue des Jardins. Chez elle, ce n'était pas grand, mais au moins c'était en dur, fait de parpaings et de tôles, raconte-t-elle. Pour poser ses quelques affaires, elle n'a trouvé qu'une baraque en lisière d'Abidjan, au bout d'une piste défoncée où ne s'aventurent ni bus ni taxi. Pour ses murs faits de bâches de plastique et de morceaux de bois, elle paie 13 000 francs CFA à chaque mois. À l'intérieur, la chaleur est étouffante. Mais le reste est devenu trop cher, explique-t-elle. Avant, on était pauvres. Maintenant, c'est la misère, dit cette femme au regard fier. On voit l'argent partout, mais qui en profite ? Maintenant, mon fils dit qu'il veut faire de la politique pour être riche. Et oui, il n'y a que cette solution en Côte d'Ivoire. D'une manette à l'autre, et de la Côte d'Ivoire au Sahel, il suffit de s'orienter vers le nord. À la frontière du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, une guerre asymétrique se perpétue depuis 4 ans, dans laquelle les troupes françaises sont elles aussi engagées. Sans pour l'instant réussir à pacifier une zone, vaste comme 6 fois la France, que se partagent 5 pays africains, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, expliquait Maria Malagardis dans Libération de mercredi dernier. Un think tank un peu connu mais très influent, basé à Clermont-Ferrand, la Fondation pour les études et recherches sur le développement international, qui est donc pour sigle FRDI, elle ambitionne justement de repenser des stratégies de développement pour répondre de manière plus efficace aux défis sécuritaires. Christophe Angeli, directeur de stratégie au FRDI, et Camille Laville, chercheuse sur les questions de paix et de sécurité au sein de la même fondation, livre ici les grandes lignes de cette initiative baptisée « Plaidoyer pour le Sahel ». Pourquoi un plaidoyer pour le Sahel ? Depuis 2014, les retours du terrain sont surprenants. Les universitaires, agronomes, membres d'ONG sont de plus en plus inquiets alors que le discours véhiculé en France sur les succès militaires face aux groupes djihadistes locaux est, lui, positif. On a alors réalisé l'ampleur du décalage de perception entre ce sentiment positif ressenti ici et la réalité vécue par les populations et la progression des djihadistes pour les empêcher d'agir chez nous. De notre point de vue, on a donc globalement réussi. Les groupes djihadistes existent toujours, mais ils n'occupent plus de territoire, ils ne nous menacent plus aussi facilement. Mais du point de vue de l'habitant, d'un habitant du Nord-Mali, l'insécurité est toujours là et le pouvoir de nuisance de ces groupes, même ponctuels, reste intact. Question, mais ces solutions que vous proposez in fine ne sont-elles pas parfois des évidences ? Renforcer l'éducation, tout le monde sera d'accord. Certes, tout le monde sait qu'il faut investir dans l'éducation, l'agriculture, etc. Mais tout dépend comment. La communauté internationale s'est longtemps satisfaite d'ouvrir des écoles. C'est facile de construire des écoles. Et effectivement, il y en a beaucoup désormais. Reste qu'on manque surtout d'enseignants formés. Au Niger, au Nord-Mali, des centaines d'enseignants sont illettrés. Cela n'encourage pas les parents à envoyer leurs enfants à l'école. De la même façon, on se félicite du nombre croissant d'écoliers qui entrent dans le primaire, sans s'intéresser au temps qu'ils y passent. En moyenne, 1 an et demi au Niger. On s'est satisfait pour l'éducation des critères quantitatifs et on a totalement ignoré l'aspect qualitatif. On se contente du court terme sans songer à des actions comme la formation des professeurs sur le long terme. Ce qui est vrai pour l'éducation, mais vaut aussi pour le monde rural. Il faut s'astreindre à envisager des solutions dans un cycle long. Mais la communauté internationale peut-elle sauver ces pays malgré eux ? Les États concernés sont parfois corrompus, peu mobilisés, demande Maria Malagardis. Il faut avoir à l'esprit la bombe à retardement que représente cette zone. Dans 15 ans, la population y aura augmenté de 60%. La notion de corruption, la faiblesse des institutions doivent s'effacer derrière la nécessité d'agir face à cet enjeu. Mais alors, que fait-on ? On continue. En maintenant les mêmes règles de conditionnalité de l'aide, de redevabilité de la dépense. C'est ce que font les bailleurs internationaux, avec un résultat souvent catastrophique. On décide d'investir, mais en réalité on n'investit pas. Car entre la décision d'engagement et le déboursement, il arrive trop souvent qu'on ne verse pas d'argent, parce qu'on estime ne pas avoir toutes les garanties sur son utilisation. Or, il faut accepter que le mode de fonctionnement de ces États ne changera pas en claquant des doigts. Il faut adopter la fameuse formule de Deng Xiaoping, peu importe la couleur du chat, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Des réformes qui se diffusent, il faut donner la possibilité aux administrations locales de s'approprier ce choix, mais ce n'est pas assez fait. Donc, je suis un peu emmêlé. Non, c'est bien. Non, j'ai sauté une page. Non, mais voilà. Bon, alors écoutez, je continue. Je suis un peu perdu, là. Donc, il faut donner la possibilité aux administrations locales de s'approprier des choix. Ceci n'est pas assez fait. Donc, question de Malagardis. Mais comment faire autrement quand les dangers imposent une réponse dans l'urgence? Quand même, dans les zones sous contrôle des militaires français, des attentats ont lieu, comme ce fut le cas à Gao, au Nord-Mali, le 18 janvier. Réponse des chercheurs, nul besoin d'aller au Nord-Mali. Même chez nous, chaque attentat incite à surenchérir, dans le court terme. Parce que notre monde moderne est celui de l'urgence et de l'immédiateté, on a oublié qu'il faut une dizaine d'années pour porter des projets. L'armée française fait du bon boulot. Tout le monde admet la nécessité de son intervention en 2013. Mais on n'a toujours pas inventé la deuxième phase. Comment pérenniser cette action militaire avec un développement qui offre aux gens une vie digne? Aujourd'hui, les économistes du développement comme les militaires partagent ce diagnostic. Question, pourquoi le Sahel cristallise tous ces enjeux? La question du Sahel est aujourd'hui l'une des plus vulnérables au monde. Avec des pays pauvres, enclavés, c'est aussi une région qui n'a pas encore enclenché sa transition démographique. Si on regarde l'ensemble des 5 pays, on prévoit 400 millions d'habitants en 2100, contre 125 à 130 millions aujourd'hui. D'où l'accent mis sur l'éducation. La jeunesse de cette population sera un atout si on lui donne une perspective. Ou un danger, si elle n'en a aucune. La qualité des enseignants dans les écoles publiques est un vrai enjeu, parce que sinon, soit ces jeunes sont déscolarisés, soit ils vont dans des écoles coraniques ou privées, sur lesquelles l'État n'a aucun contrôle. Dernière question, les élections aux États-Unis et bientôt en France peuvent-elles changer la donne? Depuis 2009, les États-Unis sont devenus le premier bailleur d'aide bilatérale au Sahel devant la France. Ce qui fait peur avec Trump, c'est évidemment sa posture isolationniste. Mais dans l'immédiat, en Afrique, l'aide américaine correspond encore à la théorie d'Obama du light footprint, on intervient discrètement en limitant autant que possible le coût de l'engagement. Même si personne ne sait en réalité combien de militaires américains sont engagés au Sahel. En France, personne ne remet pour l'instant en cause le dispositif militaire dans une région qui, en réalité, a aussi des atouts économiques réels, d'importantes ressources naturelles. Il faut sortir d'un discours exclusivement pessimiste sur le Sahel. C'est aussi l'objectif de notre plaidoyer, concluait ainsi donc le groupe de chercheurs de Clermont-Ferrand. Et maintenant, une tentative, on va essayer de mettre de la musique. Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni and green peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Therapy, therapy, advertising causes me. Therapy, therapy, advertising causes me. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes.
Well, advertising's got you on the run.
Therapy, therapy, advertising causes.
Advertising's got you on the run.
Need therapy, therapy, advertising causes.
Advertising's got you on the run. 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 Advertising's got you on the run.
Advertising's got you on the run. What is worth the buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, 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 buy. What is worth the buy? Pizza, pizza, buy. Every minute, every second, buy, 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 buy. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives.
Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives.
Meat therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Therapy, therapy, advertising causes meat. Aux Philippines, Leila de Lima appelait sans relâche à ce que les meurtres cautionnés par le chef de l'État philippin fassent l'objet d'investigations. En lieu et place, c'est contre cette sénatrice et ex-ministre de la Justice que le gouvernement de Rodrigo Duterte a ouvert une enquête. Leila de Lima a été arrêtée vendredi 24 février au matin, après s'être cloîtrée une nuit dans son bureau au Sénat. Depuis que Duterte a remporté l'élection présidentielle philippine en mai 2017, plus de 7000 citoyens ont été abattus dans le cadre de sa féroce guerre contre la drogue, environ un tiers lors de descentes de police, le reste par des assassins de l'ombre. Seule une poignée de ces exécutions a conduit à des mises en examen et Leila de Lima était la première voix du pays à s'élever contre cette impunité. « Je vais devoir la détruire publiquement », avait prévenu le président philippin en août 2016. Depuis, Leila de Lima est accusée d'avoir obtenu des financements, notamment pour sa campagne au sénatorial, de la part de narcotrafiquants de haut vol détenus dans la première prison du pays, résumé Arnold Thibault dans Le Monde de dimanche. L'un d'eux, donc je parle d'un narcotrafiquant, Herbert Colango, avait déclaré devant une commission parlementaire philippine en septembre 2016 qu'il avait versé chaque mois 3 millions de pesos, c'est-à-dire plus de 56 000 euros, à Madame de Lima lorsqu'elle tenait le portefeuille de la justice. En échange, selon ses allégations, la ministre l'avait laissé faire entrée, climatiseur, douche, club de golf, instruments de musique et pack de bière, transformant sa cellule en palace et laissant y pénétrer nombre d'invités pour des concerts de rock. Le chauffeur et amant de Leila de Lima est accusé d'avoir joué les intermédiaires. La sénatrice et ses partisans dénoncent un grossier coup monté et s'étonnent que Duterte, qui n'a de cesse de dénoncer la déliquescence morale des individus liés à la drogue, s'appuie exclusivement sur les témoignages de trafiquants pour la faire arrêter. ils font valoir que c'est précisément Leïla de Lima qui, la première à la chancellerie, avait fait cesser les privilèges de ses prisonniers et que leurs conditions de détention se sont curieusement améliorées aussitôt que ces criminels ont accepté de témoigner contre elle. Dès 2009, alors qu'elle dirigeait à l'époque la Commission des droits de l'homme des Philippines, Madame de Lima avait enquêté sur plus d'un millier d'exécutions extrajudiciaires à Davao, grande ville du sud de l'archipel, pendant deux décennies, c'est-à-dire 20 ans, les 20 ans où Duterte avait été le maire de cette ville. Pas plus tard que cette semaine, elle dénonçait encore, donc c'est bien sûr la semaine dernière, pas plus tard que cette semaine dernière, donc elle dénonçait encore le rôle central de Duterte dans ses meurtres, le qualifiant de tueur en série sociopathe. Clairement, cette administration a des plans malfaisants et dangereux. Faire de moi un exemple pour intimider, réduire au silence et détruire quiconque ose s'opposer pour détourner l'attention des abus et échecs du gouvernement et pour couvrir leur très assassine guerre contre la drogue, a dénoncé vendredi Leïla de Lima avant d'être amenée par la police. Les organisations de défense des droits de l'homme, qui dénoncent de longue date la proximité de Duterte avec les escadrons de la mort, voient en cette arrestation un nouveau signe de la dérive autoritaire de l'archipel depuis que Duterte en est président. Les partisans de Madame de Lima constatent que l'affaire arrêtée et intimidée, ainsi que ses partisans, devenait une nécessité pour Duterte, alors que l'opposition a fait témoigner d'anciens membres de l'escadron de la mort de Davao. Après un premier témoignage d'un tueur à gages en septembre 2016 devant le Sénat, un ancien commissaire de police de la ville, Aturto Las Canas, a raconté, lui, le 20 février, comment 14 ans plus tôt, il avait été grassement payé par le chauffeur et garde du corps de Duterte pour abattre un animateur de la radio locale particulièrement critique des méthodes du maire, devenu aujourd'hui président. Plus d'un millier de personnes ont manifesté samedi 25 février à Manille, la capitale des Philippines, contre la brutale guerre contre la drogue menée par Rodrigo Duterte au lendemain de l'arrestation de sa principale opposante. Des manifestants se sont rassemblés devant le siège de la police nationale où la sénatrice Leïla de Lima a été emprisonnée vendredi. D'autres manifestations étaient prévues dans la journée de dimanche ainsi qu'une veillée de nuit à laquelle les organisateurs appellent un million de protestataires. « Nous lançons une mise en garde contre la menace de la montée du fascisme », a déclaré à l'AFP Bonifacio Agan devant le siège de la police. Ce dramaturge, torturé dans les années 1970 sous la dictature de Ferdinand Marcos, renversé par la révolution du pouvoir du peuple voilà 31 ans, ce dramaturge donc a dénoncé la culture de l'impunité engendrée par la guerre contre la drogue de Duterte. Turquie, le procès des putschistes a commencé la semaine dernière et va s'étaler sur plusieurs mois. Le procès se déroule dans la petite ville de Mugla, au sud de la Turquie, en bordure de la Méditerranée. Revenons sur cette tentative de coup d'État qui avait eu lieu donc le 15 juillet dernier. Ce lundi de la semaine dernière, s'ouvrait en effet le procès de 47 personnes suspectées d'avoir voulu assassiner le président Recep Tayyip Erdogan lors de la tentative de coup d'État du 15 juillet. Un putsch manqué, orchestré selon le gouvernement turc, par le prédicateur religieux Fethullah Gülen, exilé aux États-Unis depuis 1999 et jugé également par contumace. Le dossier est l'un des plus sensibles dans la Turquie de la pré-tentative de coup d'État, où depuis cet été, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées ou démises de leurs fonctions dans les institutions turques, armée, police, justice, éducation, etc., suspecté d'entretenir des liens avec FETÖ. FETÖ, donc, c'est l'acronyme des autorités pour désigner les partisans de Gülen. Explication donnée par Quentin Raverdi dans Libération de mardi dernier. Ce lundi, donc, c'était le lundi de la semaine dernière, seuls 37 soldats putschistes, issus pour la plupart des forces spéciales turques, comparaissaient devant les juges de Mugla. Ils sont accusés d'avoir, durant la nuit du 15 au 16 juillet 2016, embarqué dans trois hélicoptères en direction de Marmaris, station balnéaire de renom au sud-ouest du pays, bordée par les eaux de la Méditerranée. Objectif présumé des mutins, capturer ou tuer le président Erdogan, alors en vacances avec sa famille dans un somptueux hôtel de la ville, le grand Yassidi Club Turban. Retardé par de mauvaises indications sur la localisation précise du chef de l'État turc, l'escadron de la mort n'arrive aux abords de l'hôtel que vers 3h30 du matin. Leur cible, elle, a déjà pris la tangente. Alerté par un officier du risque d'une attaque, Recep Tayyip Erdogan a eu le temps de lancer son appel via FaceTime, adjurant ses partisans à mater le putsch dans la rue avant de quitter Marmaris peu après 1h du matin. Les membres du commando doivent, eux, faire face à la contre-attaque des forces de sécurité turques sur place. Les combats sont d'une rare violence. Des centaines de touristes étrangers, en vacances à Marmaris, assistent pétrifiés à ces scènes de quasi-guerre urbaine. Un officier de police, Necip Sendzik Eker, et une membre de la sécurité du président, Mehmet Setin, sont tués. Mais l'opération a échoué. Les trois hélicoptères quittent la zone et laissent derrière eux plusieurs dizaines de putschistes qui prennent la fuite en direction des forêts alentour. Une chasse à l'homme est alors lancée dans la région. Des centaines de policiers dépêchés sur place fouillent les véhicules un à un. Bois, plage, champs, tout est passé au peigne fin. Les fuyards ont laissé derrière eux un impressionnant arsenal, fusils d'assaut, pistolets, grenades, etc. Au compte-gouttes, ils sont cueillis par les forces spéciales. Donc dans les bois, dans la jungle, ils seront tous arrêtés. Tout ceci nous ramène à la situation actuelle, donc en Turquie, un système de répression tous azimuts qui a provoqué l'arrestation de plus de 45 000 personnes, enfin en tout cas plusieurs dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des fonctionnaires. Et c'est dans ce contexte que Piner Salek, universitaire turc, est harcelé par la justice turque. Elle répondait jeudi aux questions de Pierre Barbancé dans l'Humanité. Comment expliquer un tel acharnement de la justice turque à votre égard ? Réponse. Depuis longtemps, ceux qui, en Turquie, contestent et franchissent des lignes rouges ont été emprisonnés, ont été tués ou ont dû s'exiler. Mon enfance s'est passée devant les prisons. Mon père s'y trouvait. Quand j'étais moi-même emprisonné après 1998, il y avait déjà 45 000 prisonniers politiques en Turquie. Depuis le génocide des Arméniens, depuis la construction de l'État turc basé sur la violence, la peur règne. C'est un système autoritaire depuis longtemps. De temps en temps, il y a des ouvertures, mais il ne s'agit pas de transformation structurelle. Donc, quand on continue à lutter, on subit la même répression. Mon cas est spécifique parce que je suis seul dans cet acharnement. Je ne suis pas incluse dans des groupes comme les journalistes ou les universitaires. Je suis en plus accusé de crimes très graves qui sont faux. On a voulu faire de moi un exemple, une terroriste. Mais il y a toujours eu une grande mobilisation autour de moi qui continue encore aujourd'hui. En une semaine, par exemple, 200 avocats se sont occupés de mon dossier. J'ai toujours été acquitté car il n'y a rien, aucune preuve. Mais l'État ne veut pas perdre contre moi. En plus, je suis une femme, une féministe, qui parle de la sexualité, de choses horribles pour eux. Je suis aussi très ferme sur le génocide arménien et je continue à écrire, ça ne leur plaît pas. Question dans l'histoire de la Turquie, comment apparaît Erdogan ? Réponse de Pinar Selek, moi je préfère parler d'un système. Car son parti, l'AKP, ce qui veut dire le parti de la justice et du développement, alors qu'il n'y a aucune justice ni aucun développement, car son parti est important. C'est une ligne politique d'un groupe qui s'appuie sur une nouvelle bourgeoisie, les Tigres anatoliens. C'est une bourgeoisie émergente, plutôt investie dans l'immobilier, qui a des relations transnationales à partir de la confrérie Naskal Balabeyamin, à laquelle appartient aussi Massoud Barzani, le leader des Kurdes d'Irak. Ils ont beaucoup de relations avec les pays arabes, mais il existe de nombreuses confréries, comme celle de Fethullah Gülen, par exemple. Et il y a une lutte transnationale entre ces confréries. Le groupe d'AKP a donné des gages aux pouvoirs occidentaux sur sa capacité à instaurer une économie néolibérale en Turquie, y compris en promettant la démocratie libérale pour résoudre le problème des Kurdes et des Arméniens. Mais les conflits du Moyen-Orient ont eu un effet sur cette alliance du fait justement de sa transnationalité. Et maintenant, ils sont en guerre. La Turquie a toujours été dans une guerre civile, mais là, elle est dans une aventure qui va encore plus loin et qui va être encore plus meurtrière. Le gouvernement Erdogan a peur car il n'a plus assez de force. C'est pourquoi on assiste à un rapprochement entre l'AKP et les Loups Gris. Les Loups Gris, donc un groupe d'extrême droite ultra-violent qui était apparu dans les années 1960. Donc je continue. C'est pourquoi on assiste à un rapprochement entre l'AKP et les Loups Gris avec les kémalistes de droite comme le MHP. Les anciens cadres de l'État qui avaient été écartés sont revenus à leur poste. C'est un gouvernement en guerre au Moyen-Orient, en guerre avec son peuple, et le niveau de terreur rappelle celui qui prévalait au moment du coup d'État de 1980. Question, c'est dans ce contexte qu'il faut entendre la tenue du référendum prévu le 16 avril et visant à renforcer les pouvoirs d'Erdogan. Réponse de Pinar Selek, il veut renforcer son pouvoir, mais encore une fois, son parti est affaibli. Il y a une peur qui n'est pas imaginaire. Autour d'Erdogan existe une équipe qui veut conserver le pouvoir. En réalité, ils veulent en partie adapter le système français. Mais dans cette nouvelle constitution, il y a d'autres choses que le système présidentiel, surtout par rapport aux droits sociaux. Quand l'AKP est arrivé au pouvoir, il était encouragé par l'Europe parce qu'il y avait des petits changements. Mais en réalité, il y avait aussi des lois du type El Khomri, Macron, etc. L'Europe a aimé cela aussi. Alors, question finale donc de Pierre Barbancé, comment apprécier l'intervention turque en Syrie? La Turquie a quitté ses anciens alliés comme le front Al-Nosra par exemple et s'est rapprochée de la Russie. Cela a un effet direct sur la politique intérieure. Tout cela peut engendrer de nouvelles violences, de nouveaux attentats. L'alliance avec la Russie ou la Syrie de Bachar al-Assad ne va pas tenir sur la durée. Mais c'est comme un jeu d'échecs. Plusieurs analystes avancent l'idée que la Turquie sera perdante dans cette aventure. Mais moi je ne sais pas. Je ne suis très inquiète de ce qui se passe au Moyen-Orient, car il s'agit d'un conflit mondial. Les grandes puissances sont présentes et la guerre peut s'exporter sur d'autres terrains. Les grandes organisations internationales comme l'ONU ont perdu de leur pouvoir. Les entreprises transnationales ont leur propre espace. Les gouvernements jouent en quelque sorte le rôle d'une police intérieure, mais en réalité ce n'est pas entre les États que les problèmes vont se résoudre. Il faut tout faire pour arrêter cette guerre. Je préfère me référer à la fameuse phrase de Gramsci. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Enfin, c'est la dernière phrase en conclusion de Pinar Selek. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté.
The road that leads to all is to one.
Voilà, donc vous venez d'écouter un morceau de System of a Down. Donc depuis le début de cette émission, c'est le même disque qui tourne, on s'en excuse, morceau par morceau, puisqu'on n'a pas la possibilité de changer les disques dans ce petit studio. Enfin, c'est très difficile. Maintenant, vous êtes à l'écoute donc toujours de Canal Sud 92.2, il est 11h26 en direct. C'est l'heure, donc vous êtes à l'écoute de l'émission Planète Rouge, et on passe pour terminer cette émission aux États-Unis. États-Unis ou Trumpland, point d'interrogation, je vous pose cette question. Le porte-parole de la Maison-Blanche a interdit au New York Times, CNN et d'autres médias régulièrement attaqués par Donald Trump d'assister au point de presse quotidien. La décision est intervenue en parallèle de nouveaux propos du président américain hostile vis-à-vis des médias. Une décision d'ailleurs très inhabituelle, couplée d'une insulte manifeste aux idéaux démocratiques. Voilà comment le New York Times résume le fait d'avoir été interdit, comme d'autres médias, d'accéder à un point presse présidentiel vendredi. La chaîne CNN, le New York Times, le Guardian, qui est un quotidien anglais, BuzzFeed, donc, qui est plutôt un journal sur Internet, comme Politico, qui est à la fois Internet et sur papier, tous ont été privés d'accès au briefing quotidien du porte-parole de la Maison-Blanche. Spicer. Des médias conservateurs de moindre taille, tels que le Fox News, One America News Network ou Breitbart News, qui offrent une couverture favorable à la nouvelle administration, ont en revanche été autorisés à y assister. Donc Breitbart News, donc c'est un site d'information sur Internet tenu par Stephen Bannon, donc le en quelque sorte l'éminence grise, je ne trouve plus le mot américain, de Trump, donc qui est toujours avec lui. On appelle ça un conseiller spécial, je ne sais plus trop comment. En tout cas, l'agence AP, USA Today et le magazine Time ont refusé de participer à ce point de presse en signe de protestation, pouvait-on apprendre dans le Figaro de samedi-dimanche. Exceptionnellement, ce briefing n'était pas organisé dans la salle de presse face aux caméras, comme cela était initialement prévu, mais dans le bureau du porte-parole. Il peut y avoir des occasions lors desquelles, en raison du manque de place ou des circonstances, la Maison-Blanche restreint certains points de presse à un pool, a souligné le chef du bureau de Washington de la BBC, Paul Danahan. Plusieurs organisations qui couvrent régulièrement la Maison-Blanche, telles les agences Reuters et Bloomberg, font partie de ce groupe réduit de journalistes, le pool, ayant accès à certains événements dont ils partagent ensuite le contenu avec leurs confrères. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui ne rentrait pas dans ce cadre, affirme Danahan. Le porte-parole de la Maison-Blanche a d'abord nié tout lien entre ce point off et le traitement médiatique de la présidence Trump par CNN ou le New York Times. Avant d'ajouter toutefois, nous n'allons pas retourner nous asseoir et laisser de faux récits, de fausses histoires, de faits inexacts sortir d'ici. Tout en affirmant que l'administration Trump fait tout son possible pour rendre nos équipes et notre salle de presse plus accessibles que probablement n'importe quelle administration avant nous. L'association des correspondants de la Maison-Blanche a diffusé un communiqué pour protester contre ce mode de fonctionnement. Au cours de notre longue histoire de couverture des administrations des différents partis, rien de tel n'est jamais arrivé à la Maison-Blanche, a de son côté déclaré Dean Baquet, directeur exécutif du New York Times. Cet accroc s'ajoute à la longue liste d'attaques verbales adressées par Donald Trump aux médias américains. Stephen Bannon, proche conseiller de Trump, a d'ailleurs prédit jeudi que les relations avec les médias allaient se détériorer de jour en jour, rapporte l'AFP. Quelques heures à peine après ce point de presse sélectif, le président des États-Unis a une nouvelle fois mis en cause les fake news médias, des médias présentés comme colporteurs de fausses informations. Alors, si vous êtes un écouteur ou une écoutrice fidèle, j'avais parlé des fake news il y a 4 semaines, beaucoup. En tout cas, donc toujours pareil, les journaux accusent Trump de lancer des fake news, ce qu'il prouve, on va en parler tout à l'heure. Mais la présidence et donc Stephen Bannon, donc le conseiller spécial de Trump, lui aussi dit des journaux, ils ne disent pas la vérité et sont un grand danger pour notre pays. Donc sur Twitter. Et donc, le chef de l'État avait auparavant, lors de la grande conférence des conservateurs américains, livré une critique similaire. Samedi encore, donc on parle bien de samedi dernier, dans un nouveau tweet, Donald Trump a mis en cause les médias qui n'ont pas rapporté que la dette publique a diminué de 12 milliards de dollars au cours de mon premier mois. Ah bon ? Face à ces attaques verbales quotidiennes, de plus en plus de médias tentent de faire valoir le bien fondé de leur travail ou d'interpeller les citoyens américains sur cette question. La vérité, c'est par exemple quand le fils du légendaire boxeur Mohamed Ali a été retenu et interrogé 2 heures durant à son retour aux États-Unis depuis la Jamaïque début février en raison de son nom à consonance arabe selon des médias américains. Bon, c'est une information qui est parue ce week-end donc dans plusieurs quotidiens américains et effectivement donc qui parle d'une rétention donc du fils de Mohamed Ali début février seulement. Mohamed Ali Junior, qui est âgé de 44 ans, qui est né à Philadelphie en Pennsylvanie et qui est porteur, bien sûr, d'un passeport américain, voyageait avec sa mère, Khalila Camacho Ali, une ex-épouse du boxeur décédé en 2016, a raconté son avocat et ami Chris Mancini au courrier journal de Louisville. Tous deux ont été retenus pour interrogatoire à l'aéroport international de Fort Lauderdale le 7 février en raison de la consonance arabe de leur nom, a ajouté Mancini. Madame Camacho Ali, donc... une des femmes du boxeur, a été relâchée après avoir montré aux douaniers une photo d'elle-même aux côtés de son ex-mari. Mais Ali Junior n'avait pas de photo. Et selon son ami avocat Mancini, il a été retenu durant près de 2 heures pour se voir demander à plusieurs reprises « D'où tirez-vous votre nom ? Où êtes-vous musulman ?» Il a répondu qu'il était musulman, comme son père, mais les douaniers ont poursuivi l'interrogatoire. Mancini a précisé qu'il tentait, de concert avec la famille Ali, de découvrir combien d'autres personnes avaient été retenues pour des interrogatoires similaires et qu'ils envisageaient une plainte au niveau fédéral. Un autre fait divers, pourrait-on dire, a été rapporté dans le Huffington Post de dimanche. Cet article était encore en ligne ce matin, vers 1h du matin. Donc... un historien devait intervenir lors d'un colloque à l'université Texas A&M. L'historien Henri Rousseau, donc un Français spécialiste de la France sous l'occupation, a été arrêté par les douanes texanes mercredi à l'aéroport George Bush de Houston. Selon le quotidien local The Eagle, il devait être ramené de force à Paris car considéré comme un étranger illégal. Henri Rousseau a finalement été relâché grâce à l'intervention d'un directeur de recherche de cette université, auteur notamment du syndrome de Vichy. Auteur notamment du syndrome de Vichy, Rousseau a donné sa version des faits dans un long texte publié dimanche sur le Huffington Post. Donc je répète que ce texte est encore en ligne et donc il décrit sa fouille au corps, l'interrogatoire sur la base d'un soupçon de visa non compatible avec une intervention à l'université, c'est-à-dire qu'en fait, le douanier disait qu'il fallait un visa professionnel pour intervenir à l'université, ce qui n'est pas vrai, mais le douanier ne le savait pas. Quand on est douanier, on ne connaît pas la loi, surtout aux États-Unis. Et alors, ensuite, libération soudaine, au milieu de la nuit, et sans aucune excuse, pas de taxi, pas de bus, etc. Je ne peux m'empêcher de penser à tous ceux qui subissent ces humiliations et cette violence légale sans les protections dont j'ai pu bénéficier, écrit l'universitaire dans le Huffington Post. Les raisons de sa détention sont encore floues. Peut-être est-ce mon lieu de naissance, l'Égypte, peut-être ma qualité d'universitaire, peut-être mon récent visa de travail expiré, pourtant sans objet ici, peut-être aussi ma nationalité française, faut le dire. Peut-être aussi le contexte, liste l'historien. En tout cas, selon une enquête du New York Times, les agents américains chargés de l'immigration se sont enhardis depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, abusant d'une nouvelle liberté d'expulser les voyageurs vers leur pays d'origine. Les règles de l'ère Obama, qui les obligeaient à se concentrer uniquement sur les criminels sérieux, sont finies, observe le quotidien américain New York Times. Trump. Un mois déjà à la présidence, c'était le thème de Libération de mardi dernier. Et à cette occasion, Estelle Pathé listait une sorte de top 10 des 10 bobards les plus flagrants de Trump depuis son investiture. On va se contenter de lire les plus croustillants. Par exemple, le top 2, l'élection volée par les immigrés. Trump ne supporte pas l'idée d'avoir perdu, au niveau du nombre de voix, un vote dit populaire remporté par Hillary Clinton avec plus de 3 millions de bulletins de vote de plus que son rival. Fin novembre, il assurait l'avoir gagné, si vous déduisez les millions de personnes qui ont voté illégalement. Tel un vieux disque rayé, il a profité de sa première rencontre avec les chefs de file du Congrès le 23 janvier pour affirmer de nouveau que des millions d'immigrés illégaux lui avaient volé une majorité du vote populaire. Il n'y a aucune preuve de vote illégaux, estiment les responsables du scrutin à travers le pays. Un recomptage des voix initié en décembre par la candidate écolo Jill Stein dans 3 swing states, donc les swing states, c'est des États qui donnent le plus de grands électeurs, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie, n'avait là encore rien révélé d'anormal. On va passer au top 6. Une anecdote, Trump ne porterait pas de peignoir. Tout est parti d'un article du New York Times daté du 5 février qui décrivait les coulisses du quotidien de Trump à la Maison-Blanche. On pouvait lire en effet, lorsqu'il ne regarde pas la télévision en peignoir ou qu'il ne téléphone pas à d'anciens membres de son équipe de campagne, il part parfois explorer les recoins inconnus de sa nouvelle maison. Des propos qui ont provoqué l'ire de Sean Spicer, donc son conseiller, qui a aussitôt pris soin de démentir ses erreurs factuelles flagrantes. Je ne crois pas que le président possède un peignoir, et il est clair qu'il n'en porte pas. Bon, alors, point d'interrogation, se baladait-il à poil dans la Maison-Blanche ? En tout cas, donc, l'auteur de l'article donc, nous dit « Il n'en fallait pas plus pour affoler un certain nombre de personnes sur Twitter qui, à l'appui de plusieurs photos retrouvées dans les méandres d'Internet, ont révélé l'infâme vérité. Oui, Trump est bel et bien un adepte des peignoirs, ce qui n'a rien de surprenant d'ailleurs pour un propriétaire d'une chaîne d'hôtels. » Top 7 aussi, tiens maintenant. Les médias taisent les attentats. Donc, devant un parterre d'officiers à la base militaire de MacDill, en Floride, Trump a accusé les médias malhonnêtes de ne pas couvrir certains attentats commis par l'État islamique. Daesh veut commettre des génocides, des atrocités partout dans le monde, décrit le président. Et, dans de très nombreux cas, la très très malhonnête presse ne veut pas en parler. Ils ont leur raison et vous le comprenez. Dans la foulée, la Maison-Blanche a publié une liste de 78 attaques terroristes de septembre 14 à décembre 2016, indiquant que la plupart n'avaient pas reçu l'attention adéquate des médias occidentaux. Réponse donc de Libération, sur cette fameuse liste, on retrouve les attentats de Paris, de Nice, mais aussi de Boston, Sydney ou encore Istanbul, des attentats qui ont tous reçu une large couverture médiatique. Face au tollé, plusieurs médias américains ont aussitôt démenti ces accusations. À l'instar du New York Times, qui accuse la Maison-Blanche de ne pas avoir mentionné sur la liste des attentats qui ont ciblé des musulmans, et qui représente d'ailleurs la grande majorité du terrorisme islamiste. Top 9. Le mieux élu depuis Reagan. Lors de son premier oral en solo jeudi, c'est un Donald Trump en totale roue libre qui est apparu face à un parterre de journalistes. Le Washington Post a recensé une quinzaine de mensonges et on en gardera un. « Nous avons obtenu 306 votes électoraux parce que les gens sont venus voter comme ils ne l'ont jamais fait. Je suppose que c'était la plus grande victoire du collège électoral depuis Ronald Reagan. » Réponse, donc, dans Libération, Trump n'a pas remporté l'élection avec 306 grands électeurs, mais 304, deux ayant voté pour un autre candidat. Et on est loin de la plus grande victoire du collège électoral. Obama, en effet, avait remporté l'élection avec 365 grands électeurs en 2008 et 332 en 2012. Et en 1989, George Bush père avait lui récolté 426 votes, comme l'a souligné, un journaliste pendant la conférence de presse. Ce à quoi Trump avait répondu, bredouille, on m'a laissé cette information, mais c'était une victoire très importante. Top 10 pour finir, donc encore une intox. Après le massacre de Bowling Green et l'attentat d'Atlanta, voici la terrible attaque du 17 février 2017 en Suède, tout droit sortie de l'imaginaire de Trump. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Regardez ce qui s'est passé vendredi soir en Suède. Donc c'était vendredi de la semaine d'avant la semaine dernière encore. Donc regardez, dit Trump, ce qui s'est passé vendredi soir en Suède. La Suède, qu'il aurait cru, la Suède, ils ont accueilli beaucoup de réfugiés. Et maintenant, ils ont des problèmes, avait lancé donc Trump lors d'un meeting en Floride. Des intox, donc toujours écrit par Estelle Pathé dans Libération. Un problème, donc, bien sûr, il ne s'est rien passé ce vendredi-là en Suède. Ma déclaration sur ce qui se passe en Suède se référait à un reportage diffusé sur Fox News sur les immigrés et la Suède, a tenté de se justifier Donald Trump. Et donc, pourrait ajouter SL Pathé, c'est que le lendemain, donc, on a eu une publication de plusieurs... des publications de plusieurs Suédois comme quoi il ne s'était rien passé. Alors, donc, il y avait des Suédois sur Internet qui montraient que le chat était sorti mais n'était pas rentré, que en fait leur plat était tombé par terre, que la voiture avait glissé, etc. C'était très rigolo. Donc on s'amuse bien avec Trump. Et donc sur cette histoire, donc il est midi moins 20. On va conclure cette émission donc, qui s'est faite un peu branquebelante, puisque nous sommes dans le petit studio de secours de Canal Sud pendant qu'une émission se fait en direct. Donc, dans 15 jours, on essaiera de revenir avec des conditions meilleures. Mais ceci dit, je ferai quand même des fautes, parce qu'il ne faut pas tout imputer au matériel. Il y a aussi beaucoup de fautes de ma part. Et voilà, donc nous sommes... le 28 février, je vous laisse en compagnie des bandes d'animation de Canal Sud. Je vais essayer quand même de passer quelques titres de musique à moi que je n'ai pas pu passer, faute de pouvoir me lever et atteindre les appareils, tout en parlant d'ailleurs. Voilà, donc l'émission est terminée. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours et dans 17 minutes à peu près, vous pourrez écouter le magazine d'information de Canal Sud sur les informations locales. Eh bien, à la prochaine, pourrais-je dire. Au revoir.